Et nous en sommes à la face B de la deuxième cassette. Et par rapport à l'exposé, dans cette troisième partie, section A, où nous parlons du syndrome de la domination. Et nous voyons comment facilement quelqu'un qui est propulsé en autorité, sans préparation, contraint par le style actuel qui prédomine en Église à exercer l'autorité dans un esprit de pouvoir plutôt que de service, se sent facilement insécure. Et des signes d'insécurité qui nous permettent de repérer ces personnes ou ces autorités insécures, je peux en énumérer un certain nombre. On constate qu'elles s'entourent, ces personnes-là, habituellement de gens faibles, qui ne les menacent pas trop. Genre yes men ou yes women, qui disent comme eux ou comme elles. Des genres de miroirs ou de tuiles acoustiques qui leur redonnent leur image et leurs idées. Et c'est frappant que les gens faibles, que les autorités qui se croient fortes ont un faible pour les forts et que les autorités faibles ont un fort pour les faibles, s'entourent par conséquent de gens qui ne peuvent pas les désécuriser. Ou encore, ils tiennent leur sujet à distance, redoutent les entrevues seul à seul et se mettent toute une série d'intermédiaires pour recevoir les demandes et transmettre les réponses, car cela les compromet beaucoup moins et peuvent toujours mieux s'en sortir. Ils se déclarent ouverts au travail d'équipe, mais en réalité se servent de ce moyen pour amener les autres à jouer leurs cartes les premiers ou pour imposer au nom du bien commun et du consensus de groupe leurs idées, présentées et soutenues par les leurs au sein de ces équipes ou de ces comités soi-disant de consultation. Ces personnes, ces autorités insécures, imposent et entretiennent souvent un climat de mystère. Ils prétextent qu'ils savent bien des choses que les autres ignorent. Un climat lourd d'exigences et de contrôles, où les distributions de prix et de compliments sont rarissimes, mais les distributions de complaintes, de griefs, sont non seulement fréquentes, mais presque systématiques. En outre, il y a, bien entendu, tous ces jeux qu'ils peuvent pratiquer sur les sentiments individuels ou collectifs, qui consistent à toujours tenir leurs troupes sur le qui-vive, en se déclarant épuisés par la tâche, se déclarant incompris, persécutés injustement, se déclarant possiblement trahis, sans rien préciser. Donc le « divide ut impera », jouer l'un ou les uns contre l'autre ou les autres. Encore, on retrace cette insécurité dans le phénomène de la délégation comme ne déléguant pas. Ils parlent toujours de déléguer aux autres l'autorité, mais ils exigent que tout leur passe entre les mains, tout leur soit dit et qu'ils soient au courant de tout. Il ne faut pas, mes chers amis, recourir à une boule de cristal ou implorer une révélation divine très spéciale pour se figurer les répercussions nombreuses, affreuses et désastreuses de ces régimes autoritaires qui s'ignorent, qui dominent par tous les moyens, et tous les moyens deviennent souvent bons, pour sauver la face et le contrôle. Et alors, on le comprend, se déclenche tout le cortège des manquements à la vérité, à la charité et à la liberté, de part et d'autre, je dis bien, de part et d'autre, en haut comme en bas. Ces manquements sont des mécanismes, des interréactions négatives qui font déluge, et cette pluie est souvent acide, croyez-moi. Ces régimes autoritaires dégénèrent souvent, même en Église, en tyrannie, en autocratie, où les fidèles et les sujets ou les subordonnés de ces personnes en autorité sont pris en otage. Ces régimes, enracinés au point de départ dans l'insécurité et l'inaptitude des personnes en autorité, ces régimes deviennent à leur tour souvent générateurs chez leurs sujets également d'insécurité et d'aptitude brimée. Disons en terminant que l'opération ou le syndrome de la domination s'exprime d'une multitude de façons auprès des subordonnés. Ça peut être le simple harcèlement en actes et en paroles. Ça peut être le harnachement, où on met un harnais et des conditions qui restreignent la personne, ou même le musellement pour l'empêcher de parler ou de s'exprimer spontanément ou librement, sans autorisation et surtout sans vérification préalable. Voilà pour ce premier syndrome qui concerne, comme je l'ai dit, chacun de nous lorsque nous sommes en autorité. Passons au deuxième syndrome, le syndrome du Sanhédrin. Ce deuxième syndrome concerne la manière souvent piteuse ou miteuse, les deux reviennent au même, injuste et indigne même, avec laquelle trop souvent les autorités exercent la justice ou le traitement des personnes et des dossiers d'évaluation en Église. Vous avez, comme moi, lu plusieurs passages de l'Évangile où on parle du fameux Sanhédrin, ou le Grand Conseil, qui était à la fois un tribunal suprême et une assemblée législative. Donc le pouvoir législatif et judiciaire était entre les mains des mêmes. C'est comme aujourd'hui. Ce Sanhédrin, ce grand conseil, comprenait dans le temps 71 membres de trois catégories qu'on appelait les anciens, c'est-à-dire les laïcs de l'aristocratie, les grands prêtres honoraires et les sadducéens, membres du clergé, et les scribes et les docteurs de la loi. Il existe encore de nos jours des grands prêtres. Et on pourrait faire un parallèle entre les grands prêtres d'alors et ceux d'aujourd'hui. Jadis, ces grands prêtres, ce sont ceux-là qui n'ont pu discerner qui était Jésus et quelle était sa mission, et l'ont condamné à mort. Et aujourd'hui, les grands prêtres, ce sont ceux qui ne savent pas discerner les envoyés du même Seigneur, agréer leur mission en son nom et veulent les mettre à mort. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les grands prêtres d'autrefois puis les grands prêtres d'aujourd'hui? Bien, d'abord, soulignons les traits positifs qu'ils ont en commun. Ce sont souvent des gens en autorité, sont instruits, sont bien intentionnés, comme ils l'étaient du temps de Jésus, ils le sont aujourd'hui, sont très bien organisés et structurés, ils sont priants et croyants dans la plus grande mesure du possible. Sur le plan négatif, les grands prêtres d'aujourd'hui, comme ceux d'autrefois, ont la même allure sur d'eux-mêmes. Ils croient tout savoir et surtout que le Seigneur se doit de les prévenir, eux, les grands prêtres, de toutes ces initiatives ou des inspirations nouvelles qu'il entend confier à son peuple, sinon ça ne va pas. Ils exercent l'autorité dès qu'ils la sentent et le moindrement menacée, à coup de rappel à l'ordre, de mise en demeure, de rappel de la loi et de la discipline ecclésiastique. On n'a qu'à relire dans les Actes des apôtres les mises en demeure qu'ils ont fait à Jean et à Pierre. On vous défend de faire ci, on fait ça, puis soyez libres, on va vous fouetter avant, etc., etc. Et parce qu'ils sont souvent accaparés, du matin au soir, par toutes sortes d'actes administratifs et pastoraux, les grands prêtres d'aujourd'hui risquent de réserver à la prière et à l'écoute libre et calme du Seigneur un temps relativement court, trop court. Et ils vivent un peu selon l'adage de l'Empire anglais, « What we have, we hold ». Or, tout le souffle de l'esprit qui s'en va ou qui s'en vient directement à l'heure actuelle aux fidèles et suscite un nouveau leadership spirituel en Église, fort heureux, se heurte souvent chez eux à une fin de non-recevoir, à une prise en délibéré qui n'aboutit pas, puisque le vrai discernement en la matière ne vient pas du raisonnement, du degré d'instruction, de la grandeur du titre ou de la fonction, ni de la discussion humaine, ni du seul fait d'être en autorité. Le discernement en la matière vient bel et bien de lui, le Seigneur. Et il faut donc recourir, en s'accordant le temps et la ferveur, au discernement spirituel communautaire. Quels sont les griefs qu'on pourrait regrouper autour de ce syndrome du Sanhédrin, dans la manière où, malheureusement, s'exerce la justice trop souvent en Église à l'heure actuelle? Le premier grief, c'est qu'on passe habituellement à la mise en accusation, à la charge, même à la condamnation parfois, avant même d'avoir rencontré la personne concernée et d'avoir vérifié les faits, les dires et les textes auxquels on se réfère. Et remarquez bien, on le fait, je l'ai entendu d'innombrables fois, sous prétexte d'objectivité. On se limite au seul témoin accusateur en déclarant que les autres sont partiaux, qu'on connaît d'avance que les autres vont se défendre, donc ça ne donne rien de les rencontrer. On redoute l'autre son de cloche. Et alors, ce sophisme est juste à l'encontre de ce que le Seigneur a enseigné. Va voir ton frère, celui que tu crois qui a péché, va voir ton frère d'abord. Mais non, toute la paroisse est au courant, toute la communauté est au courant. Souvent, la personne concernée ne l'est pas, et si elle le devient, elle le devient en dernier lieu. Autre grief qu'on peut loger, c'est que la conséquence qui s'ensuit inévitablement, c'est que l'ensemble de la démarche ou le contenu du dossier, parce qu'on n'a pas rencontré la personne concernée d'abord et les témoins favorables également, eh bien, le dossier regorge d'imprécisions, de confusions, d'inexactitudes, de manque de nuance. Et alors, tout le processus commence de travers. Ça oriente mal les pourparlers et souvent blesse là où les personnes mises en cause. Autre complainte, dans les rencontres du style Sanhédrin, comme l'ancien Sanhédrin des premiers temps, on a tendance à charger, à pressurer, à violenter verbalement, tout en contrôlant ses gestes et sa parole pour avoir l'air charitable. Et pourquoi? Parce que, à toute fin pratique, en rencontrant la personne concernée, on a déjà jugé et condamné la personne. On la rencontre pour la forme surtout. On veut justifier dans une rencontre son ou ses accusations, extorquer d'autres aveux et voir s'il n'y aurait pas manière, il n'y aurait pas une manière d'amener l'intéressé à capituler et à tout avouer de guerre lasse. Et beaucoup succombent à cela. J'ai rencontré une multitude de gens qui en église, on dit que devant cette charge à fond, injuste, scandaleuse, ils n'ont pas vu d'autre issue que s'écraser, capituler pour en finir au plus vite. Bien souvent également, le dossier est monté et rédigé non pas en fonction du bien de la personne mise en cause, mais plus ou moins consciemment, en fonction des autres qui, dans les coulisses, font pression en arrière-scène et à qui on montre ou on donne déjà une copie du dossier monté avant de rencontrer l'intéressé. Ça vient aussi de son besoin d'affirmer son autorité au pouvoir. Mes amis, il n'y a pas besoin d'un doctorat pour voir comment des attitudes comme ça, et elles sont nombreuses, et je me restreins en disant nombreuses, en Église, que des attitudes comme ça soient des points d'irritation, des points qui sabotent et s'abordent au point de départ, le « aimons-nous les uns les autres ». On retrouve également, souvent, d'une part, un choix tendancieux des preuves, des dires et des témoignages, et d'autre part, une omission calculée d'éléments majeurs et pourtant bien connus. Quelqu'un peut avoir fait un succès de sa vie, et on le prend en défaut sur un point, et c'est comme si cette personne avait un dossier noir toute sa vie. La démarche également, ou l'écrit, et j'ai vu ça souvent, sont piégés, sont sournois, et avec une odeur de pelure de banane. Quoi que dise ou quoi que fasse la personne concernée, on tentera d'interpréter le tout contre lui ou contre elle. Enfin, mes chers amis, septième grief, un peu comme le Sanhédrin qui a jugé Jésus, et dont il est question au chapitre 26 de Matthieu, c'est la course aux pièces à conviction. On saisit tout au passage, on fait flèche de tout bois, on monte en épingle des détails, on accumule les choses négatives entendues ici et là. Bref, dans le style Sanhédrin, on ne s'intéresse qu'à l'un des deux plateaux de la justice, celui qui va incriminer l'autre et en finir. On fait enquête, mais on n'est pas en quête de la vérité. J'irai même plus loin. Et, mes chers amis, ce que je vous raconte dans cet enseignement, ce n'est pas de l'histoire ancienne. Il n'y a rien auquel je fais allusion que je n'ai pas sous les yeux présentement. Eh bien, non seulement on a tendance à ne vouloir rencontrer que les diffamateurs et les délateurs, en s'abstenant à toute fin pratique de vouloir rencontrer les témoins qui sont favorables à la personne injustement accusée, mais, comme le Sanhédrin du temps de Jésus, on a même parfois, tenez-vous bien, le désir de supprimer toutes les preuves qui peuvent désavouer notre inconduite. Dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 12, versets 9 à 11, on lit ceci. Cependant, une grande foule de Juifs avait appris que Jésus était là, à Béthanie, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus lui-même, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts. Les grands prêtres, écoutez bien, dès lors décidèrent de faire mourir aussi Lazare, puisque c'était à cause de lui qu'un grand nombre de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus. Fin de la citation. Et Lazare, pourtant, n'avait rien fait de mal. Il s'était laissé ressusciter et croyait, évidemment, en Jésus. La même ruse avec le nouveau diacre Étienne. Et là, on entre dans une tactique un peu plus rusée et malhonnête. Et je cite, chapitre 6, verset 10. Et comme ils étaient incapables de s'opposer à la sagesse et à l'esprit qui marquaient ces paroles, celles d'Étienne, ils subornèrent des gens pour dire, nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Verset 11. Verset 13. Une fois traduit devant le Sanhédrin, ils produisirent de faux témoins contre Étienne. Il n'y a pas grande différence quant aux effets et quant au scandale entre chercher soi-même des faux témoins ou, d'un autre côté, encourager et laisser témoigner des gens que l'on sait faux de ce qu'ils disent, affirment ou recommandent. Si en Église, de façon générale, et Dieu merci, du moins à ma connaissance, on n'en est peut-être pas encore venu à encourager la prolifération des faux témoins, on en est arrivé cependant, hélas, à accorder beaucoup trop d'attention, de temps et de faveur même à ceux et celles qui témoignent à tort et à travers, et qu'on perçoit souvent, d'ailleurs, comme mal intentionnés, biaisés et exagérés. Mais, comme ils servent notre cause, qui consiste à dénigrer, salir, couler quelqu'un, on les laisse filer leur laine, pour ne pas dire filer leur haine. En résumé, mes chers amis, le Sanhédrin et son esprit répréhensible se retrouvent non seulement là où on enquête et tire des conclusions, juge et condamne à toute fin pratique avant d'avoir rencontré et entendu l'intéressé et ses témoins, leur accordant de bonne grâce tout le temps et les moyens de se défendre, mais l'esprit Sanhédrin se retrouve encore là où l'on cache l'identité des délateurs et diffamateurs. C'est contre les droits de l'homme, c'est contre les procédures dans les tribunaux. Les témoins accusateurs dans les tribunaux sont identifiés. En Église, on les cache. L'esprit Sanhédrin est là où on tente de réécrire l'histoire des événements, des faits, des personnes, pour justifier les accusations, où, dès les premiers contacts avec l'intéressé, on cherche non pas la vérité objective ou sa vérité subjective, mais tout ce qu'on veut en faisant parader la personne, c'est des aveux qui confirment ses conclusions déjà tirées d'avance et la sentence déjà émise, où l'on force donc les gens aux aveux, aux confessions, comme on fait avec des prisonniers de guerre. L'esprit Sanhédrin est là où ceux et celles qui défendent l'intéressé sont mal jugés et étiquetés à leur tour, en venant à la défense de la justice, de la vérité, de la liberté. Ils tombent eux aussi sous le coup des soupçons. L'esprit Sanhédrin est là également où l'on menace, où l'on intimide verbalement, où on fait du chantage ou des représailles, où l'on sort des lettres de référence, des messages qui discréditent la personne. L'esprit Sanhédrin est encore là. Ou alors qu'on a pris tout le temps qu'on veut pour mener son enquête ou sa pseudo-enquête, quand on rencontre la personne concernée, il faut précipiter les choses et en finir vite, on n'a pas trop de temps, il y a tellement de... l'agenda est chargé. L'esprit Sanhédrin est là où l'énoncé des accusations, formulé de vive voix ou par écrit, est paradoxalement à la fois assez flou pour pouvoir leur donner l'élasticité qu'on veut et assez ferme car on ne veut pas rater cette chance de condamner la personne. L'esprit Sanhédrin est également là où il y a délation encouragée ou agréée trop facilement, où il y a eu contrat émis pour avoir la tête de cette personne, sa tête, comme celle de Jésus, qui a été mise à prix. Mais dans le cas actuel, non pas nécessairement pour être payé en écus, en dollars, mais en appréciation et considération à venir. L'esprit Sanhédrin, mes chers amis, est là où on lance des accusations comme des ballons d'essai. Si ça marche, tant mieux. Sinon, on s'excuse et fait marche arrière. Je suis personnellement, et vous l'êtes sans doute, toujours d'abord étonné, puis déçu, et enfin peiné profondément quand j'entends utiliser en Église des expressions comme « il ou elle est sur la liste noire », « on ne veut plus en entendre parler », « son dossier est fermé », « toute confiance lui est retirée à jamais », « son cas est réglé pour de bon », peu importe son changement, celui des circonstances, même des témoignages, c'est classé, c'est fini. Quand on entend ces expressions, ou si on ne les entend pas, on les constate, chez des hommes et des femmes qui se prétendent d'église, des personnes en autorité, censées être des ambassadeurs et des ambassadrices du vouloir et du jugement de Dieu, cela nous donne veut pas, des haut-le-cœurs, des nausées moralement parlant. Car c'est tout le contraire du vouloir, du jugement et de l'agir divin à l'égard de nous, ses enfants. Dieu est juste, il veut la vérité, certes, mais il veut une justice, une vérité, qui baigne dans l'amour et la miséricorde infinie. Ces jugements divins ne ferment jamais les dossiers. Ces jugements divins ne mettent personne sur une liste noire. Ces jugements divins ne considèrent aucune situation comme classée à jamais, comme irrémédiable ou irrécupérable. Au contraire, on le sait, jusqu'au dernier souffle, Dieu tente tout pour innocenter les plus grands pécheurs, les récupérer et les sauver. Qui sommes-nous alors pour utiliser si facilement l'ex cathedra, le sans-appel, le sans-retour, dans nos jugements, dans nos condamnations? Je redis encore cette exclamation de Jacques 4, 12. Toi, qui es-tu pour juger le prochain? Dans le monde, un dicton précise que bien souvent notre réputation nous suit partout. Eh bien, dans l'Église, je constate hélas qu'elle précède bien souvent. Par le tam-tam ecclésiastique et religieux de nos commérages bien souvent, les commentaires négatifs, les mises en garde, les réserves sont les premiers effets rendus sur les lieux bien avant les bagages et la personne concernée. C'est honteux, monstrueux, scandaleux par rapport à la bonne nouvelle de Jésus. Est-on consacré à lui ou non? Consacré à vivre ou à saboter son commandement nouveau? Passons maintenant, si vous le voulez bien, au troisième syndrome, celui de l'Inquisition. Comme je l'ai déjà mentionné, le canon 220, c'est-à-dire l'article du droit canonique 220, précise ceci: il n'est permis à personne, donc ni aux évêques, aux laïcs, aux religieux ou aux prêtres, de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation d'autrui. Nous l'avons vu dans un syndrome précédent. Et je complète la lecture de l'article. Ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité. Vous l'avez lu dans l'histoire de l'Église, l'Inquisition en menait large, on le sait, du XIIIe au XVIe siècle, du moins sous sa forme officielle et soutenue par l'autorité ecclésiastique. Je rappelle rapidement les grandes caractéristiques de ce qui s'est appelé l'Inquisition en Église. On laissait un temps de grâce aux soi-disant hérétiques ou sorciers pour abjurer. Et s'ils le faisaient spontanément, ils étaient réconciliés moyennant une peine légère. Puis l'enquête commençait sous dénonciation secrète, voyez, le même processus, pour éviter les représailles, disait-on. Des interrogatoires codifiés amenaient les aveux et précisaient le degré de culpabilité. La mise à la question, c'est-à-dire le questionnement au troisième degré, fut autorisée par le pape Innocent IV en 1252. Et ensuite, les sentences étaient proclamées lors d'un sermon général, et les sentences étaient variées, soit condamnées au port d'insignes diffamants, soit à la flagellation, à l'obligation de pèlerinage, à la prison, à la confiscation des biens, et ceux qui refusaient d'abjurer étaient alors livrés aux bras séculiers, mis à mort sur un bûcher. L'institution comme telle n'existe plus. Deo gratias. Mais je vous l'assure, l'esprit d'inquisition, lui, est hélas toujours à domicile, bien vivant parmi nous en Église. On a encore tendance, une vraie manie souvent, à voir des hérésies partout, des schismes partout, des sectes partout, des églises parallèles partout, aux moindres divergences de vue, de procédés ou de priorités de la part des autres frères et sœurs. Les inquisiteurs officiels, et ceux qui s'ignorent, sont légions à l'heure actuelle en nos milieux d'Église. Et dès qu'ils sentent que quelqu'un échappe à leur emprise totale, leur contrôle complet, ou leur, disons-le, manipulation, l'esprit d'inquisition se réveille et se révèle. Et c'est la chasse aux sorcières et aux sorciers. C'est l'ennemi à conjurer et à faire adjurer. Et on fait flèche de tout bois, que ce soit vrai ou faux. Ici encore, mes chers amis, on retrouve à l'origine de ce syndrome de l'inquisition le même phénomène. L'insécurité viscérale de beaucoup de chefs de file. Pour ces personnes en autorité, que ce soit des parents, des éducateurs, des évêques, des dirigeants, des curés, ce qu'ils ou qu'elles ne contrôlent pas, ne désirent pas, ne comprennent pas, n'expérimentent pas, ne recommandent pas, les menacent continuellement. Et ils ont peur des personnes ou des idées autres que les leurs. Ils ont peur que ces personnes ou ces idées finissent par en rallier d'autres et que cela leur échappe. Et alors, la diversité et la liberté qu'ils accueillent en principe et en théorie, ils sont pour ça, doivent être immolées à toute fin pratique à leur idée de l'unité, restreintes à leur champ visuel, à eux et à elles. C'est la règle du « suis-moi ». Pas le « suis-moi » de Jésus, cependant, « suis-moi ton maître », mais le « suis-moi, moi ton évêque »,« suis-moi, moi ton supérieur », »,« suis-moi, moi tes parents », »,« suis-moi, moi ton directeur de conscience », »,« moi, nous, tes dirigeants de mouvement », »,« moi, ton boss ». C'est la règle de l'unité, de vue, d'opinion et de procédé, veut, veut pas, autour de ceux et de celles qui ont des titres, des pouvoirs ou sont en autorité dans le milieu. Hors d'eux ou hors d'elles, point de salut. De là, leur danger de succomber à la tentation, de prendre tous les moyens possibles, et certains plus ou moins catholiques, pour s'enquérir, pour inquisitionner sur la vie, les convictions, les allées et venues, les fréquentations, l'influence, etc., des uns et des autres qui ne sont pas sous leur coupe, il n'y a qu'un pas facilement franchi. Et on tombe alors, avec cette bonne intention d'inquisitionner, dans des méthodes communistes, policières, genre Gestapo, Saddam, peu importe. Et mes chers amis, nous devons confesser que c'est le sort qu'a eu celui qui m'a ordonné, mon archevêque bien-aimé, Monseigneur Joseph Charbonneau. Il a subi une inquisition brutale du matin au soir pendant des mois pour arriver à faire matière à procès et obtenir, comme on a réussi à le faire, sa tête et sa démission. Dans les milieux de la PEG, on emploie souvent l'expression, paraît-il, émettre un contrat sur quelqu'un, c'est-à-dire recourir à un tueur à gages pour éliminer quelqu'un. Et ceux qui en donnent l'ordre ne trempent ni dans le complot ni dans l'exécution. Dans le monde dit éduqué et civilisé, on se garde bien et on se défend bien de recourir à de telles intentions, à ce vocabulaire ou à ces méthodes. Mais quand on dit avec conviction, quand on dit tout haut ou tout bas, celui-là ou celle-ci, croyez-moi, il va sauter. Je vais finir par avoir sa tête. Ses jours sont comptés. Comptez sur moi. Ce ne sont pas que des mots, M-O-T-S. Et ce n'est habituellement ni sa béatification ou sa canonisation qu'on veut. Ces phrases, dans la bouche, le cœur et l'esprit, même de membres du clergé, de l'épiscopat, d'hommes ou de femmes d'église, dirigeants de mouvements, en disent souvent long. On veut éliminer quelqu'un, quelqu'une. Non pas physiquement ou avec une arme à feu, mais on veut en finir avec cette personne. Et pour y arriver, tous les moyens sont bons. Diffamation, accusation, provocation, mère debout, démotion, inquisition, etc. Peu importe si tout cela conduit cette personne à la révolte ou à la dépression, à la maladie ou à la perte de la foi. Et nos cimetières de victimes de procédés comme celui-ci sont nombreux et vastes. Que de laïcs, de prêtres, de religieux, religieuses et évêques, et ils sont légions, ont subi ou subissent encore le triste sort de ces assassinats moraux, psychologiques ou spirituels, aux mains de leurs dirigeants ou confrères et consœurs en Église, qui, par ailleurs, se disaient inspirés par les meilleures intentions au monde et croyaient ainsi bien faire pour sauver l'Église et les âmes. Pour la victime, il n'y a pas grande différence, soit dit en boutade, entre être éliminé par quelqu'un qu'on engage ou quelqu'un qu'on enrage. Certaines personnes, même en autorité, non seulement attirent, mais attisent la diffamation, sans souvent s'en rendre compte. Leur comportement est non seulement diffamatoire, mais, si je peux inventer le mot, enflammatoire, en ce sens qu'il ou qu'elle manifeste beaucoup d'intérêt à en savoir toujours davantage sur ceux et celles qu'ils pourchassent. Et sans le vouloir ou même le savoir, certaines personnes suscitent alors des circuits d'informateurs anonymes. qu'elles savent apprécier et complimenter pour leur confidence. Bien entendu, cela ne se paie pas en dollars ou en francs, mais en bons égards, tant et aussi longtemps que cet informateur n'est pas démasqué. J'ai énormément de pitié pour ces leaders d'organismes, de communautés, de diocèses ou de paroisses qui essaient de construire l'Église de cette manière, d'établir leur autorité à même ces dénigrements d'autrui. Ils ressemblent, selon moi, à des gens qui naïvement confieraient la protection de leur immeuble à des armées et des légions de termites voraces qui rongent tout sur leur passage. L'édifice semble tenir debout, en apparence du moins, alors qu'il est en partie miné et déjà ruiné. L'heure viendra, où tout s'écroulera en poussière. Nous allons voir tout juste le temps, il reste 3 minutes, de dénoncer le 4e et dernier syndrome concernant les personnes en autorité. C'est le syndrome que j'appelle du sablage continu, qui aurait pu tout aussi bien s'appeler le syndrome de l'humiliation ou encore du rabot ou de la varlope. Le sablage, selon le dictionnaire, c'est l'action de sabler, c'est évident. Et sabler, c'est quoi? C'est décaper, dépolir, frotter. En recourant à une machine qui projette un jet de sable fin ou toute autre matière abrasive, comme la pierre ponce. Et le but du sablage, c'est de mettre à nu et de débarrasser de tous les mauvais dépôts qui couvrent le meuble ou l'immeuble. En partant de cette image et de cette expression, on peut décrire un autre des syndromes, hélas courants et souvent bien intentionnés, où non seulement des autorités, des parents, éducateurs, évêques, supérieurs, dirigeants exagèrent, mais également des conjoints, collègues, des associés, des confrères et des consœurs passent à l'excès en voulant, pour ainsi dire, décaper, polir, améliorer, perfectionner ceux et celles qui leur sont confiés ou partagent leur vie. En effet, aussi étonnant que cela puisse sembler, du moins de prime abord, on retrouve dans notre société et même dans nos milieux d'Église des personnes en autorité qui, sans le vouloir sans doute, sans parfois même s'en rendre compte, par leurs attitudes, agissent envers leurs sujets, leurs enfants ou leurs élèves, ni plus ni moins, comme de véritables sableurs et sableuses continues à l'excès des êtres humains qui les entourent. Et on me fait signe que nous avons fait ensemble un bon parcours et nous allons arrêter pour le moment. Nous nous retrouverons pour la poursuite de ces enseignements dans quelques jours.